L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion. C'est en direct à midi et c'est rediffusé à 18h. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas foulé le sol du Géoparc d'Armorique. Façon de parler parce que bien sûr on y est dans le Géoparc. On y retourne donc aujourd'hui. On va même descendre au sous-sol puisque vous savez, il s'agit de géologie. En particulier aujourd'hui du granit de l'île d'Ouessant. Il sera question de volcanisme notamment. D'une période fort lointaine dans le temps, il y a 336 millions d'années, enfin même avant. Un Géoparc, c'est en effet un lieu où on vit, où on se balade, mais c'est aussi une belle occasion pour faire de la science. Avec nous en plateau, pour une fois, ce n'est pas Noémie Courant, la chargée de mission de Géoparc, on la salue au passage. C'est Jérémy Bourdoulou, le directeur du patrimoine naturel du parc d'Armorique. Bonjour Jérémy.
Bonjour Véronique.
Et au téléphone, nous avons Martial Caroff, maître de conférence en pétrologie et géochimie magmatique à l'Université de Brest. Bonjour.
Bonjour.
Jérémy, d'accord, on va commencer avec les actualités du Géoparc. Quelles sont-elles ? Y en a-t-il ?
Eh bien, cette année, on attendait un grand événement, c'était la visite de nos évaluateurs de l'UNESCO. Les crises sanitaires sont passées par là. Donc ces visites, elles sont reportées. On a eu enfin quelques nouvelles de l'UNESCO. Ça prend un peu de temps dans les arcanes administratives, mais on aura cette visite en début d'année prochaine, sans doute au premier ou au deuxième trimestre.
Oui, parce que c'est important, parce que c'est eux qui attribuent le label au final.
On attendait l'attribution du label pour le printemps 2021, donc là, ça va être décalé peut-être d'un an. J'espère pas plus. Et si c'est moi, bah c'est tant mieux.
Parce que le dossier a été renvoyé, a priori, tout va bien.
Alors officieusement, ça se passe bien.
Bon, voilà, c'est ça, on n'a pas le droit de... on n'a pas le droit d'annoncer les résultats avant, hein, bien sûr. Mais bon, on a beaucoup travaillé de toute façon. Et il y a une dérogation, enfin je veux dire, ça va pas, on va proroger le délai. Enfin je veux dire, on va pas nous dire, ah ben non, c'est trop tard, recommencer.
Alors on va faire de la diplomatie avec l'UNESCO, on va s'assurer que tout se passe bien. Non, on est assez optimiste là-dessus, on a eu des bonnes nouvelles sur notre dossier. L'Armorique, c'est un territoire qui était attendu, hein. On est au bout de la Bretagne, tout le monde regarde un peu cette candidature. Tous nos partenaires aussi qui étaient dans notre projet européen poussent et sont derrière nous, donc on n'est pas oublié, le dossier il n'est pas perdu
dans les placards de l'UNESCO.
C'est ça, et donc voilà, les deux évaluateurs vont arriver l'année prochaine. C'est pas une inspection cette visite, c'est un échange avec des évaluateurs, on n'est pas dans une approche scolaire, donc ça doit être aussi quelque chose de convivial. On va travailler cette visite avec les partenaires pour prévoir, je dirais, 2-3 jours de découverte du Géoparc, puisque forcément ils viennent de l'étranger, ils connaissent pas le territoire normalement.
Oui, c'est la question que j'avais posée, ça dure pas juste une journée, c'est pas juste 2 heures quoi.
On est sur un format de 2 ou 3 jours à peu près. Ils vont faire des visites qui seront dirigées, on va bâtir un petit programme avec eux 6 semaines avant leur arrivée. Dans ce programme-là, on leur laissera aussi des créneaux où eux pourront décider d'aller voir des choses un peu à l'improviste, comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va préparer cette visite en amont. On fera aussi de la communication. Il y avait des formations qui étaient prévues. Il y avait un forum à Plougastel d'Aoulas qui était prévu au printemps. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu faire. Donc, avec Noémie, là, on va travailler de près, en direct, avec tous ces acteurs qui ont contribué depuis 2 ans au projet Géoparc, pour préparer cette visite malgré tout. Voilà, on espère que le Covid passe très vite maintenant pour se remettre. On n'a pas rien fait pendant ce temps-là. Hein. On a travaillé sur un site web qui est sorti cet été. C'était un intense travail qui reflète un peu le Géoparc, c'est-à-dire comment on peut le découvrir, des visites de terrain, des visites de musées, de sites, les bons conseils, voilà. Quelque chose de très grand public, très, très
oui,
sympathique.
Quoi. C'est un très beau site, on en avait parlé d'ailleurs, Noémie nous l'avait présenté quand il était sorti.
C'est ça.
Il y a d'autres documents d'ailleurs, qui sont, je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle tout à l'heure, mais il y a d'autres documents qui sont en préparation. Quoi.
Oui, alors on a un projet qui est très sympa dans les cartons, qui était prévu pour l'obtention du label au printemps 2021, et donc ça on l'a gardé, on va faire un bouquin de découverte du Géoparc. Donc là, c'est un guide comme celui qu'on a fait sur Ouessant précédemment pour la réserve de biosphère. On travaille avec un auteur qui s'appelle Julien Amic, qui est aussi photographe. Et donc, c'est un petit guide de découverte, vraiment rando familial, voilà, où on peut aussi découvrir l'environnement, les paysages, mais aussi les humains qui font vivre. Donc, des bonnes adresses de découverte touristique ou des acteurs un peu emblématiques. Voilà, c'est guide de découverte.
Il sera plus gros que celui d'Ouessant ou il sera...
on va être à peu près sur 200 pages, donc là c'est quand même un gros morceau.
Parce que là c'est tout le géoparc, en fait.
Ouais. C'est tout le géoparc, ouais. Mm-hmm. Donc, de la presqu'île de Crozon, Mont d'Arrée, l'Aulne, on a essayé de répartir différentes balades, et vraiment dans une approche ludique. Alors, bien sûr, il y a des éléments de géologie, de la carte géologique, des rappels sur l'histoire géologique, mais tout ça ponctué d'infos très riches sur l'histoire. Le Fou, par exemple, ça va être une halte incontournable de ce bouquin. On a tout dans le bourg du Fou. On a la nature, on a l'estuaire, on a les pierres, on a le patrimoine bâti, et plein de choses à visiter, à découvrir. C'est un des sites coup de cœur de ce bouquin. On a hâte que ça sorte, du coup.
Et en attendant, il y a une carte interactive qu'on peut déjà télécharger, je crois, sur le site.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une carte de découverte, toute simple, hein, qui tient sur un A3. Elle sera disponible aussi dans les offices de tourisme là pour la saison, et puis auprès des personnes qui en font la demande. C'est un dépliant, en fait, hein, qui donne, une vingtaine de sites sur lesquels on peut aller se balader, découvrir le géoparc, la tourbière du Mougeot, le Mont-Saint-Michel de Brasparts. C'est des petites randos accessibles pour tous et qui donnent les clés de contact pour découvrir ce géoparc. Voilà. Donc il y a des sites très connus, et puis il y a des petits coups de cœur. Je vous invite à aller voir sur le site web. Quoi.
Et il y a aussi donc le géoparc, c'est aussi un endroit où on fait de la science. C'est là que je vais me retourner à nouveau vers Martial Caroff. Martial, donc cette étude que vous avez menée à Ouessant, c'était pas une commande du géoparc, je suppose. Enfin.
Non, c'est Ouessant. En fait, on y va à l'université avec les étudiants depuis une quinzaine d'années. Avec des étudiants de licence 3. Et donc, au départ, c'était uniquement pour l'encadrement. Et puis, peu à peu, on s'est intéressé à la géologie. Enfin, on fait de la géologie avec eux, mais on s'est intéressé de manière un petit peu plus approfondie à la géologie. Et on a découvert que, finalement, ça méritait qu'on approfondisse un petit peu les choses. Donc, on a commencé à y faire de la science. On a échantillonné, on a fait des mesures, etc. Et peu à peu, donc, il y a des choses qui sont apparues. Et on a en tout fait quatre articles internationaux sur Ouessant, dont le dernier est sorti cette année.
Alors c'est de celui-là qu'on va parler en particulier. Alors on fait la première vulgarisation, je crois, parce que pour l'instant, l'article est vraiment publié dans sa forme très scientifique. Alors, sur quoi ça portait... Voilà, c'est en anglais, voilà. Et sur quoi portait précisément cet article?
Alors, avec le temps, on a... Bon, au départ... On savait que Ouessant était le prolongement du Léon, des formations géologiques du Léon qui sont essentiellement métamorphiques et granitiques. Alors, métamorphiques et granitiques, ce sont des roches profondes qui sont normalement à la racine d'une chaîne de montagnes, de l'ancienne chaîne de montagnes armoricaine qui s'appelle une chaîne hercynienne. Et puis donc, on avait un âge qui était de 300 millions d'années au nord de l'île. Et donc on a commencé donc par travailler sur les formations du nord, granitiques, ensuite sur les formations centrales qui sont métamorphiques, et au sud on avait aussi un granit. Donc on a commencé à travailler sur toutes ces roches là et on a aussi fait des nouvelles datations. On a découvert, surprise, que les formations du sud étaient beaucoup plus anciennes, elles étaient de 336 millions d'années. Or 336 millions d'années, ça correspond à l'ouverture des grands bassins que l'on a un petit peu partout dans la chaîne hercynienne. Le plus proche d'ici, c'est le bassin de Châteaulin. Sinon, il y a le bassin d'Ancenis, il y a le bassin de Laval, le bassin de Morlaix. Ce sont des bassins qui se sont ouverts à peu près à cette époque-là. Donc, du coup, à Ouessant, on a eu la surprise de découvrir des formations qui n'étaient pas du tout attendues et beaucoup plus anciennes que ce qu'on avait initialement prévu. Donc, on a continué à travailler dessus et on a fini par découvrir que la formation granitique du sud d'Ouessant n'était en fait pas un granit, mais c'était des roches volcaniques. Alors, c'est étrange de confondre comme ça, a priori, des roches volcaniques et des granites, parce que normalement, ça se voit tout de suite, la différence. Ben là, non, parce que les roches sont extrêmement déformées, à tel point que c'est pas du tout évident de faire la différence entre les deux.
Parce que normalement, le granit, c'est...
C'est ça qu'on a présenté dans le dernier article de cette année.
Parce que juste pour rappeler un petit peu les définitions, le granit, normalement, c'est une roche qu'on appelle plutonique, c'est-à-dire qu'elle est censée s'être formée vraiment sous la Terre, c'est ça, en profondeur.
Alors, ce sont des roches volcaniques ou roches plutoniques, ce sont des roches magmatiques dans les deux cas, c'est donc la cristallisation de magma. La différence, c'est que les granites cristallisent à plusieurs kilomètres de profondeur. Et donc, il y a des grains, enfin, le grain de la roche est grossier, on voit les minéraux à l'œil nu. Alors que les roches volcaniques, à l'origine, sont de même origine, hein, c'est la même chose, ça vient de la profondeur, de la fusion du manteau, ça remonte jusqu'à la surface. Et là, donc, il y a un refroidissement beaucoup plus rapide au contact avec de l'air ou de l'eau, et du coup, le grain de la roche est beaucoup plus petit. On a des minéraux beaucoup plus fins. Et donc, il y a une différence au niveau à l'œil, hein, normalement, entre une roche volcanique et une roche plutonique. même si au départ on a des magmas dans les deux cas. Et aussi, bien sûr, en termes de mise en place, ça n'a rien à voir, puisque dans un cas, c'est mis en place en profondeur, à plusieurs kilomètres, parfois même plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et on y accède par l'érosion ensuite, pour les roches plutoniques. Et pour les roches volcaniques, en revanche, ça se met en place en surface. Et là, c'est... Bon, alors comme les roches ont été déformées, recristallisées au cours de la formation de la chaîne de montagne, eh bien, on pouvait difficilement faire la différence entre les deux. Et il a fallu faire une étude de terrain assez précise pour pouvoir justement démontrer que c'était du volcanisme.
Comment ça se passe une étude de terrain dans ce cas-là? Très concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, on va sur les zones où... D'abord, il faut aller sur la côte parce qu'à l'intérieur de l'île, ça n'affleure pratiquement pas. Donc, on va sur la côte et on va, à force d'aller là-bas régulièrement, tous les ans, on a découvert un endroit où on avait des roches qui étaient extrêmement étranges et qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on savait des roches plutoniques. Donc on a commencé par étudier ça, on les a regardées, on les a pris en photo, on a fait des dessins tout simplement. Et ensuite j'ai comparé toutes ces roches-là qui sont anciennes et déformées avec du volcanisme récent, des roches qui viennent de se mettre en place. Et on a découvert pas mal de similitudes. Et donc du coup on a pu mettre en évidence une grande coulée de lave. On a ensuite interprété comme un granit, et autour de cette coulée, des formations qui sont explosives, donc des formations qui se sont mises en place dans un petit bassin sous-marin, et qui sont mises en place sous la forme d'éruptions explosives, avec des formes très très particulières. Et donc c'est par comparaison entre ces roches-là, qui sont, je répète, anciennes et déformées, avec le volcanisme actuel, qu'on peut en tirer des conclusions, et proposer un schéma de formation de ces roches.
Et pour observer les roches que vous avez observées récemment, vous n'avez quand même pas été obligé de faire de la plongée sous-marine?
Non, c'est sur la côte. Non, c'est effectivement des roches initialement sous-marines, mais ça fait il y a 336 millions d'années, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc voilà, on a juste travaillé sur la côte. Alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est que... Bon, c'est intéressant d'abord pour Ouessant, pour le niveau régional, parce qu'on démontre que toute la partie sud de Ouessant est volcanique, et donc ça n'a pas le même âge, ça n'a pas du tout la même mise en place. Il faut quand même savoir que le sud s'est donc mis en place en surface, tandis que toute la partie nord s'est mise en place à plus de 10 ou 20 km de profondeur. Déjà, c'est pas du tout pareil. Pas au même âge non plus. Et alors, ça a aussi un intérêt beaucoup plus général. Au niveau des géologues, c'est qu'on essaye de proposer une technique qui nous permette de mettre en évidence justement le fait, enfin, quand on est en présence de roches volcaniques dans des roches extrêmement déformées. Voilà. Parce que c'est vraiment pas facile de les identifier. Donc voilà, par ce travail-là, on essaye d'avoir de faire quelque chose qui a un intérêt très très général et qui peut servir dans d'autres exemples dans le monde.
Alors pour refaire une sorte de scénario de la naissance d'Ouessant, enfin là je vais être un peu ambitieuse, mais en gros quel était le paysage il y a mettons 336, enfin avant les 300 millions d'années, enfin au moment du volcanisme, quel était le paysage et comment est-ce que petit à petit l'île s'est formée? Quelles ont été les étapes?
Alors c'est donc l'histoire a commencé vers 340-336 millions d'années, il s'est donc formé un bassin. Il y a des failles qui sont apparues, un bassin sédimentaire qui est apparu en surface, enfin pas tout à fait en surface, à quelques mètres ou dizaines de mètres de profondeur sous l'eau. Donc un bassin sédimentaire. Donc le volcanisme s'est mis en place à la faveur de ces failles dans ce bassin. Il y a eu une grande coulée qui est apparue, qu'on a pris ensuite pour un granit, qui en fait n'en est pas un. Et donc associé un petit peu avant et un petit peu après à la mise en place de cette coulée, il y a eu des explosions volcaniques extrêmes, sans doute assez violentes, qui permettent donc qui traduisent donc la relation entre l'interaction entre le magma et l'eau au moment de la formation de ce bassin. Voilà. Ensuite, il y a eu vers 320 millions d'années. Là, on est en plein dans la formation de la chaîne de montagne, puisque le bassin, c'était un petit peu avant. Donc, 320 millions d'années, formation de la chaîne de montagne, tout ça s'est déformé. Ça s'est plissé, ça s'est recristallisé, c'est devenu vraiment très très difficile à lire. Et enfin, la troisième étape, c'est 300 millions d'années, où là, on a, dans la partie nord, eu accès à une zone qui, elle, en revanche, contrairement au sud, correspond à la racine de la chaîne de montagne. Donc des formations très très profondes. C'est là qu'on a du granit, qu'on a des roches très très déformées, qui correspondent vraiment à la base de la chaîne de montagne, comme ce qu'on trouve d'ailleurs dans le Léon continental, pareil. Donc c'est vraiment, le Léon est formé de ça. Le Léon est considère que c'est la racine de la chaîne de montagne hercynienne. Ce qui est original, c'est le petit bassin sud, qui est un bassin superficiel, et donc par le jeu de failles, de soulèvements et ensuite d'érosion, eh bien il y a deux zones qui sont actuellement en contact, l'une très profonde au nord, l'autre très superficielle au sud. Le problème, c'est que quand on se promène du nord vers le sud de Ouessant, on ne voit quasiment pas la différence. On a l'impression d'avoir des roches qui sont à peu près équivalentes.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. En termes de paysage, ça se traduit, même ou de végétation éventuellement, ça ne se traduit pas tellement, quoi.
La seule chose qui apparaît dans le paysage, c'est le centre. Le centre, c'est ce qu'on appelle des micaschistes, donc c'est des formations anciennement sédimentaires qui ont été transformées et qui sont beaucoup plus tendres que le granit du nord et les roches volcaniques du sud. Donc dans le centre, on a des grandes échancrures, et on le voit très bien, l'île d'Ouessant est en pince de crabe, et donc la partie centrale de l'île est beaucoup plus tendre à l'érosion, ça s'érode beaucoup plus facilement, et là ça se voit dans le paysage. Donc c'est pour ça qu'on a la grande échancrure qu'on a à l'est et à l'ouest, qui correspondent au port du Stif d'un côté, et au village de Lampol de l'autre. Donc ça, ce sont des zones qui sont échancrées, parce qu'elles ont été érodées, tout simplement parce que les formations sont plus tendres. Mais pour le reste, effectivement, on ne voit pas la différence entre le nord et le sud. Enfin, pas de manière flagrante.
Et ce volcanisme d'Ouessant, c'est peut-être encore trop tôt, mais est-ce qu'on peut le relier à d'autres phénomènes volcaniques finistériens, enfin des alentours?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un bassin qui est contemporain du bassin de Châtelain. Et sur le bassin de Châtelain, enfin, en bordure du bassin de Châtelain, il y a du volcanisme. On l'en trouve dans la région de pas très loin du Helgoat. Et puis aussi dans la montagne noire au sud. Là, il y a du volcanisme associé à l'ouverture du grand bassin de Châtelain. Alors, le bassin de Châtelain, c'est une grande structure qui fait toute la partie centrale du massif armoricain. Et c'est le même âge et la même signification que le petit bassin sud d'Ouessant.
Et c'était un bassin qui était plus grand que ça, ou est-ce que, enfin, c'est tout ce qu'on en, il en reste aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut imaginer que c'était vraiment un très grand bassin volcanique? Enfin, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Enfin, donc, mettons, il y a 340 millions d'années, et puis est-ce que c'était sous la mer? Comment ça se présentait?
Oui, alors à Ouessant, c'était sous la mer, effectivement. Non, ça ne devait pas être un très grand bassin. Bon, c'est très difficile à dire, parce qu'il y a eu tellement de déformations depuis. Actuellement, c'est vraiment une toute petite chose. Bon, on n'a pas accès à la partie sous-marine, enfin, en tout cas, on ne l'a pas étudié. Et puis, il y a eu tellement de transformations depuis qu'on ne peut pas tellement savoir la taille du bassin initialement. Mais a priori, tout de même, c'était un bassin qui était de beaucoup plus petite taille que celui de Châtelain. Je répète, celui de Châtelain est vraiment un très très grand bassin qui voit son prolongement à l'est jusqu'à Laval, parce qu'il y a un autre bassin de même signification, avec là aussi du volcanisme à Laval.
Et donc c'était les volcans d'Auvergne en ouest armorique, en fait, pour caricaturer.
Ben voilà, sauf que c'est très ancien. Ouais, c'est toute une série de volcanismes qui se sont mis en place dans pratiquement toute la partie centrale de la chaîne, essentiellement. Donc il y a Châtelain, Laval. Alors il y a un tout petit peu aussi au nord, à Morlaix, et au sud, à Anceny. Et donc voilà, maintenant Ouessant fait partie de cette famille de bassins qu'on appelle volcano-sédimentaires, parce qu'il y a à la fois du volcanisme et des roches sédimentaires en même temps. Tous ces bassins sont de même âge.
Et du côté
de 300, entre 340 et 335 millions d'années.
Et du côté de Belgoat, par exemple, ça se voit uniquement dans ce que vous disiez, dans les roches. Il n'y a pas d'autres manifestations plus visibles d'un ancien volcanisme?
Non, alors ailleurs dans le massif armoricain, il y a du volcanisme plus facile à interpréter et plus visible. C'est par exemple dans la presqu'île de Crozon, le volcanisme de l'Ostmar ou de l'Aber. Mais c'est un volcanisme beaucoup plus ancien, hein, qui est ordovicien, donc de 470 millions d'années. On le voit mieux. Il est plus ancien, mais on le voit mieux, parce qu'il était moins déformé. Celui-là, à Châtelain, au niveau du bassin de Châtelain, on ne voit pas grand-chose. À Ouessant, on voit simplement. C'est tellement déformé qu'on a du mal à l'interpréter. Non, si on veut vraiment voir du volcanisme, du beau volcanisme au massif armoricain, il faut aller soit à Crozon, à l'Ostmar, on voit effectivement de très très belles choses, ou alors dans le Trégor. Dans le Trégor aussi, on voit pas mal de volcanisme, encore plus ancien, puisque c'est un volcanisme qui n'a pas loin de 600 millions d'années. Vous voyez, c'est pas parce que c'est vraiment ancien que ça n'apparaît pas. C'est pas tellement l'âge qui fait que c'est plus ou moins visible, c'est surtout la déformation. Ah oui, c'est extrêmement déformé. Dans le Trégor, ça l'est beaucoup moins. on a des zones à Erquy, par exemple, ou bien dans la région de Saint-Brieuc, on a des zones où on voit très très bien le volcanisme. Je dirais mieux qu'à Ouessant, évidemment, ou que dans le bassin de Châteaulin. Mais sinon, plus près et dans le périmètre du parc, le volcanisme le plus spectaculaire, c'est certainement celui de Crozon. Mais il est ancien, hein, 470 millions d'années.
C'est les
470, 450, je dirais.
Et c'est les fameuses laves en coussin, c'est ça?
Enfin, tout à fait, ouais. De l'Ostmar, oui.
Là, ce volcanisme plus récent, il est quand même, je suppose qu'il est quand même éteint.
Oui, aucun risque que ça... Oui, tout à fait. Alors là, on est dans c'est vraiment des choses en fait qui précèdent les grands événements de la chaîne hercynienne. Donc on est vraiment au tout début des événements qui vont donner naissance à la chaîne de montagnes qui correspond actuellement au massif armoricain. Alors il faut bien être conscient que le massif armoricain, avec son Ménésium et les Monts d'Arrée, qui vont pas très très haut, hein, c'est 300 et quelques mètres, c'est une chaîne de type himalayenne.
Ouais.
Il faut vraiment jamais oublier ça. C'est-à-dire qu'on avait des reliefs de plusieurs milliers de mètres qui ont complètement été érodés. On est vraiment dans une chaîne majeure de type himalayenne. Simplement que là, maintenant, avec l'érosion et le temps, tout ça, ça a disparu. Et c'est pour ça que dans la région dans le secteur du Léon, par exemple, on a accès à la racine de cette chaîne. Donc il y a eu une érosion de plusieurs milliers de mètres.
Et après, ça s'est resoulevé en plus, c'est ça ?
Entre 5 et 10 kilomètres, probablement, d'érosion.
Et après, ça s'est resoulevé en plus, après, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a un double phénomène. Il y a des phénomènes de soulèvement et des phénomènes d'érosion, voilà, qui permettent d'avoir accès à des zones extrêmement profondes de la chaîne de montagne.
À Ouessant, vous allez continuer à mener une étude ou est-ce que c'est terminé pour l'instant ?
Là, je pense qu'on a terminé. On a fait 4 articles, donc je pense que là, on a vraiment tourné le problème dans tous les sens. Je crois que là, maintenant, on va en rester là. Donc actuellement, on est en train de travailler sur les quercentites, toujours dans le périmètre du géoparc, enfin du futur géoparc. Là, c'est en cours d'écriture. Et on va ensuite s'intéresser au granit du domaine central.
Ah oui, alors pourquoi c'est du côté des Monts d'Arrée, c'est pour l'année prochaine, c'est ça ? Qu'est-ce que vous allez chercher ?
On a un master 2 qui va démarrer là normalement en janvier-février, et qui aura pour mission de travailler sur le granit. Alors il y a plusieurs noms, hein, c'est le granit des Monts d'Arrée, on l'appelle aussi le granit de Comana-Plounéour, et qui est connecté avec un granit qui est beaucoup plus au nord, c'est le granit de Plouaret. Alors donc tout cet ensemble de Plouaret jusqu'à Comana n'a quasiment pas été, enfin Plouaret si, mais la partie sud n'a pas été étudiée. Donc on veut le dater en particulier et l'analyser pour savoir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et l'autre travail c'est sur Huelgoat, car on pense, enfin c'est pas encore sûr, mais personnellement je pense que l'âge du Huelgoat n'est pas satisfaisant. Il faut absolument qu'on le redate pour le faire rentrer, disons, dans notre nouveau modèle de formation de la chaîne hercynienne dans le massif armoricain.
On va
focaliser sur essentiellement Comana et Huelgoat dans les mois qui vont venir.
Vous dites l'âge, par exemple, l'âge des chaos, vous pensez...
Alors actuellement, Huelgoat est daté, je crois, à 342 millions d'années. Ce qui me paraît, pour plein de raisons que je ne peux pas développer ici, trop vieux. Donc je pense que c'est un granit qui en fait est beaucoup plus récent que ça, mais il faut le démontrer, donc il faut qu'on l'analyse et il faut qu'on le date.
Bon.
C'est une des premières choses qu'on doit faire, parce que 340 millions d'années, ça me paraît trop ancien.
D'accord, vous reviendrez alors dans l'émission.
donc on a un étudiant qui va travailler dessus, il s'appelle Nicolas Estève, et donc il va travailler en collaboration bien sûr avec le géoparc.
D'accord. Alors Jérémy, ces recherches scientifiques, là, bon, je pense qu'on a tout compris, mais comment elles sont valorisées par le géoparc pour le grand public ?
Alors, ce travail-là qu'évoquait Martial à l'instant sur Ouessant, on va le valoriser dans le cadre de la réserve de biosphère UNESCO qui est sur les îles. Donc, le géoparc, il est vraiment sur les parties terrestres du parc. Et dans les îles, c'est une réserve de biosphère. C'est à peu près la même chose, sauf que sur le continent, on met plus l'accent sur la géologie. Et sur les îles, plutôt sur la biodiversité, les liens entre l'homme et la nature. Donc, on a un peu le même outil. On a aussi une collègue, c'est Camille, qui travaille sur ces projets-là.
Qu'on a interviewé récemment.
Voilà. Et puis, c'est vrai que dans la réserve de biosphère, on n'a pas trop travaillé jusque-là sur les questions géologie. Et avec l'arrivée du géoparc, on s'est dit, bah, mettons un peu de géologie dans notre réserve de biosphère.
Voilà, ah oui, on peut faire ça, bien que ça ne soit pas vraiment du bio, au sens où ce n'est pas vivant, on peut quand même...
La dimension géologique, c'est du patrimoine naturel aujourd'hui. C'est vraiment fléché comme ça, y compris dans le domaine réglementaire, dans le droit, hein, c'est des éléments de patrimoine. Donc dans la réserve de biosphère sur Ouessant, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, et ça on va le faire dans le cadre de la réhabilitation de notre maison de la réserve, le musée du New hein, sur Ouessant, qui a été incendié il y a quelques années, je le rappelle. Et donc il y a des travaux qui sont prévus à partir de l'année prochaine et en 2022. Ce musée, il va être complètement revu, réhabilité. Et ces questions-là, elles vont être intégrées dedans. Alors bien sûr, le musée, c'est surtout un endroit, une base pour aller après se balader sur le terrain via des animations, des choses comme ça, des interventions de géologues sur le terrain, des publications qui sont faites par nos partenaires comme le CEMO aussi, hein, qui travaille sur Ouessant, qui est une association naturaliste, mais qui travaille aussi cette question géologique. Voilà, donc le grand public doit savoir ça. D'ailleurs, on parlait de Ouessant, entre le nord et le sud, on ne voit pas trop les différences. Pour les Ouessantins, ce n'est pas le même monde et il y a intérêt de bien choisir son camp.
Oh là là, oui, faut toujours se méfier. Ok, merci. Bon, bah, alors on va revoir le Géoparc en 2021, puisque je suppose qu'il y aura d'autres actualités, notamment peut-être ce fameux forum qui doit avoir lieu, là, le troisième forum du Géoparc. On se retrouvera ou on retrouvera Noémie à cette occasion. Merci beaucoup et merci aussi à Martial Caroff et à bientôt.